Bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde.
Naître à soi et naître au monde. Des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Bienvenue dans Enfanter et devenir, le podcast dédié à l'accompagnement respectueux des enfants, mais aussi à l'empouvoirment via la parentalité. Après deux saisons axées sur des récits de naissance uniquement, il va y avoir du nouveau. Ça va être un joyeux bazar ici. Alors préparez-vous à être inspiré, informé et motivé dans votre parcours de parent, mais pas que. Ici, nous explorons ensemble les différentes facettes de ces merveilleux voyages qu'est la parentalité, en mettant l'accent sur l'accompagnement respectueux des parents et des enfants, mais aussi sur l'écologie, parce que bon, on n'en parle jamais trop. Je suis ravie de vous retrouver seule ou avec des invités pour partager des réflexions, des expériences inspirantes, des astuces qui vous aideront à vivre pleinement votre rôle dans ce nouveau paradigme pour un monde qui a grandement besoin qu'on évolue dans nos pratiques vers plus de douceur, de lenteur et de respect. Je m'adresse ici aux parents et aux pros de la petite enfance, mais de manière plus globale à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'enfance, aux relations harmonieuses et à l'épanouissement individuel et collectif. Ouh oui, c'est un vaste et ambitieux programme. Avant tout, je me présente, je suis Laetitia Boivin, créatrice de Maman d'Alune, formatrice passionnée en périnatalité et surtout, maman de quatre merveilleux enfants, de 15, 12, 5 et 2 ans. Parmi eux, trois sont nés à la maison, librement. Ça a clairement impacté ma vision du monde et influé sur la maman et la pro que je suis aujourd'hui. Il y a 15 ans, je faisais partie de ces rares mamans écolo bizarres, avec leur lubie de maternage. Mes enfants ont tous été allaités et portés des années. D'ailleurs, c'est encore en cours pour ma plus jeune. Avec chacun d'entre eux, j'ai vécu l'expérience de l'hygiène naturelle infantile, du tout lavable. J'ai signé pour enrichir notre communication. Nous avons voyagé à travers plusieurs continents. Et depuis toujours, ils grandissent sans école. Des choix que je chéris chaque jour. En bref, j'ai la chance de voir ma vie pro et ma vie perso se nourrir mutuellement. Ici, pas de jugement et pas de culpabilisation. On chemine ensemble. Vous êtes invité à prendre ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait du bien, et à laisser le reste. Mon objectif n'est pas de convaincre, mais vraiment de vous soutenir. Alors préparez-vous à vivre une aventure joyeuse, intense et pleine de découvertes dans le monde de l'accompagnement respectueux et de la parentalité. Hello, aujourd'hui je vais vous parler de ces résolutions qu'on a du mal à tenir. A priori, cet épisode est destiné à être diffusé à partir du 4 janvier et peut-être que certaines personnes parmi vous font des résolutions. En tout cas, j'avais très envie de vous proposer un petit parallèle entre les résolutions qu'on peut prendre au moment du début de l'année, mais pas que, avec nos résolutions parentale. Donc je voulais un petit peu qu'on fasse le tour d'horizon ensemble de pourquoi les résolutions ne tiennent pas et parfois même dans le domaine de la parentalité, quand bien même ça nous tient énormément à cœur. Je voudrais évoquer avec vous et les similitudes entre les difficultés que nous rencontrons pour tenir nos résolutions et celles que nous éprouvons dans notre rôle de parents en tant que parents respectueux. Donc nous évoquerons ensemble l'importance de mettre en place des stratégies claires et des outils appropriés pour atteindre nos objectifs. C'est assez rigolo de parler dans le domaine de la parentalité un petit peu comme ça, comme le peuvent faire certains coachs dans d'autres domaines, mais ça me faisait rigoler de l'évoquer ainsi. Donc attention, spoiler alerte, il ne s'agit pas juste de vouloir quelque chose pour y arriver. Et non, on ne doit pas juste vouloir pour le pouvoir, malheureusement, ça serait beaucoup trop simple et beaucoup trop facile. J'avais envie de faire déjà un petit tour rapide de c'est quoi la parentalité respectueuse et positive. Alors voilà, on peut mettre différentes étiquettes. Certaines personnes aimeraient bien qu'on parle juste de parentalité, comme si ça pouvait être naturel que la parentalité, ça soit forcément respectueux et forcément positif et forcément bienveillant. Ben, malheureusement, soyons honnêtes, on n'est pas vraiment dans un schéma où c'est ce qu'on peut observer autour de nous. Qu'est-ce que ça peut être que cette fameuse parentalité bienveillante? Donc en gros... On va se baser sur des actions concrètes. Déjà, ça va être le fait de privilégier une communication qui soit ouverte et bienveillante avec nos enfants. Favoriser le dialogue, et ce, dès tout petits, finalement. Les écouter activement et reconnaître leurs émotions et leurs besoins. Alors oui, ça peut sembler vraiment la base, le béaba, mais en réalité, ben, c'est pas toujours ce qu'on a connu. Donc, établir une communication vraiment... qui soit dans les deux sens, où on respecte autant la parole de l'un que de l'autre, et ben c'est un chemin dont on ouvre la voie et qui est parfois pas si évident que ça. En deuxième point, je vais vraiment, dans mon idéal, avoir cette vision qu'on va adopter une approche qui est empathique. Donc on va essayer de comprendre les perspectives de notre enfant, on va essayer de se mettre à sa place, vraiment, voilà, de reconnaître de son point de vue quelle est sa vision d'une situation et essayer un petit peu de lâcher notre vision d'adulte avec nos connaissances d'adulte, toujours remettre en contexte et reconnaître donc l'importance de leurs sentiments parce que le fameux... Oh bah c'est rien quand l'enfant s'est blessé, c'est qu'une petite égratignure. Bah en fait, pour l'enfant, c'est peut-être beaucoup plus que juste une petite égratignure parce qu'il y a toute une dimension émotionnelle. Et puis, ben, en réalité, ça fait mal. Et puis, pour nous, ça reste un petit problème. On sait que c'est pas grand-chose, que ça passera. Mais pour l'enfant, à ce moment-là, ben, ça peut l'être grave. Et on est souvent à nier les sentiments comme ça. Et je vais vraiment essayer... de prendre du recul dans ces moments-là et de me placer à la place de l'enfant. En troisième point, on va vraiment encourager l'autonomie et la prise de décision. Attention, parfois c'est très inconfortable de laisser les enfants décider. Mais sur des petites décisions, en fait, c'est essentiel parce que si on ne les laisse pas prendre, faire leurs petits choix pour des petites choses qui ne sont pas si importantes que ça finalement... Eh ben, ça va être difficile après de leur demander de faire des choix un peu plus importants, un peu plus conséquents en grandissant. Et clairement, on pourrait vraiment faire un épisode là-dessus. Choisir, c'est quelque chose qui est très difficile et du coup, ça s'apprend et c'est important de leur laisser l'opportunité ben, de faire leurs choix de petits enfants qui sont souvent des petits choix qui ont assez peu de conséquences. Et puis, ben, ça les aidera... Ça sert vraiment une aide précieuse pour leur futur, à mon sens. Et encourager leur autonomie, donc voilà, c'est vraiment leur laisser l'opportunité ben, de tester les choses, de développer un petit peu leurs différentes compétences. Et oui, en effet, ça prend plus de temps de laisser l'enfant cuisiner avec nous plutôt que de le faire seul. Ça prend plus de temps de le laisser se préparer. Puis c'est pas toujours aussi bien fait qu'on l'aimerait. Ça bouscule un peu nos habitudes. Ça nous pousse parfois un peu dans nos retranchements. Mais pour moi, c'est vraiment une des clés d'un accompagnement qui est respectueux. En quatrième point, je vais avoir utilisé des méthodes de résolution de conflits qui sont non violentes. Alors ça, c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, très vite dans ma parentalité, m'a soulevé de grandes questions. Je me souviens, je pense que ma fille devait avoir entre 13 et 14 mois quand je me suis dit « Waouh, il faut vraiment que je mette quelque chose en place ». Et à ce moment-là, j'avais trouvé des ateliers Faber et Maslisch. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un bouquin qui s'appelle « Écouter pour que nos enfants parlent et parler pour que nos enfants écoutent » qui a été écrit par deux femmes qui avaient suivi elles-mêmes les enseignements du docteur Ginotte qui a vraiment développé, hein, on va dire, une stratégie pour accompagner les enfants de manière respectueuse en s'enlevant un petit peu des fameux clichés dans lesquels on est de réactions qui sont parfois vives, virulentes et qui nuisent aussi à la relation. Donc voilà, une méthode de résolution de conflits. Ça peut sembler bizarre parce que c'est des petits conflits du quotidien, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ces moments-là parce que c'est des moments qui se répètent tous les jours, plein de fois par jour, et puis très vite, on peut adopter un positionnement qui n'est pas forcément super respectueux. Donc là, il y a la partie l'enseigner à nos enfants, mais en fait, en réalité, c'est plutôt l'apprendre ensemble parce que c'est des compétences qui vont nous soutenir notre relation. Et qui vont pouvoir être utilisés dans toutes les relations qu'on va avoir dans notre vie, en fait, finalement. Ces compétences que nous, on va mettre en place en tant que parents, on va pouvoir les utiliser dans le domaine professionnel, on va pouvoir les utiliser dans vraiment plein de sphères différentes de notre vie, et c'est pareil pour l'enfant, en fait. Il va développer avec nous ce système de résolution de conflits et il va pouvoir l'utiliser après, plus tard, quand il est en collectivité, quand il est dans différents groupes pour ses activités, pour peu importe où il aura envie d'aller plus tard. Donc voilà, cette communication non violente, en fait, c'est des petites clés. Pour certains, c'est plus facile que d'autres parce qu'ils ont eu l'expérience, ils ont eu la chance de vivre des expériences s'en rapprochant, mais pour d'autres, c'est vraiment un monde à découvrir. Et voilà, il y a plein de petites choses, comment un peu négocier, faire des compromis, mais qui entendent vraiment les deux parties et qui laissent de la place aux deux protagonistes, en tout cas. En cinquième partie, ça va être pratiquer la discipline positive, donc éviter les punitions et les récompenses, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient d'ordre, on va dire, un peu flatterie et compagnie, et de privilégier des méthodes qui sont dites plutôt positives, basées sur l'encouragement, sur la coopération, sur l'apprentissage mutuel. C'est vrai que ce mot « discipline », il revers parfois cette image de soumettre. Alors là, on n'est pas du tout dans cette idée-là. On est vraiment dans une envie, une volonté de partage, mais d'un partage du quotidien qui puisse être respectueux de part et d'autre. Donc il y a toujours un équilibre qui n'est pas évident à trouver entre comment on répond au mieux aux besoins des uns et des autres. Et parfois, oui, il y a des frustrations qu'on ne peut pas empêcher. Donc l'idée, c'est d'arrêter d'en créer de manière volontaire. Malheureusement, on est dans une société qui crée beaucoup de frustration pour les enfants, pour qu'ils apprennent. Il y a beaucoup d'adultes qui vivraient très mal ces frustrations, d'ailleurs. Peut-être en souvenir de tout ce qu'ils ont déjà enduré. Mais là, on va être vraiment sur à essayer d'accompagner plus ou moins les conséquences naturelles. Parce que oui, en effet, selon le comportement qu'on a, il va y avoir des actions derrière, des réactions en chaîne, et puis l'enfant va apprendre petit à petit que certaines actions ont des répercussions, ont des conséquences qui vont aller dans son sens, qui vont lui convenir ou moins, et on va pouvoir accompagner de manière respectueuse, avec beaucoup d'empathie et tout ce qu'on disait avant, ces réactions-là, même quand c'est difficile. Mais ce n'est pas toujours difficile des fois, au contraire, c'est soutenant. En sixième point, j'ai indiqué modéliser des comportements respectueux. Donc en fait, c'est tout simple. Si on a envie de nourrir notre relation et d'être dans un accompagnement qui soit respectueux, il faut vraiment qu'on prenne la mesure que nous sommes le modèle pour nos enfants. Et donc, en adoptant nous-mêmes des comportements qui sont respectueux, en traitant les autres personnes autour avec de la gentillesse, en faisant preuve d'empathie, en étant poli, naturellement, les enfants vont être amenés à nous imiter. Donc, en gros, quand notre enfant, on vise un comportement de notre enfant, on est tout à fait en droit de rechercher certains comportements de notre enfant. Nous restons des animaux sociaux, on a envie qu'il puisse être intégré au maximum pour être bien. Ça, c'est tout à fait naturel. Et la première chose à faire, c'est de faire en sorte d'être irréprochable, entre guillemets. Alors, irréprochable, ça peut mettre un peu la pression, mais au moins de viser toujours ce modèle qu'on aimerait donner à notre enfant. Et parfois, quand on le voit avec un comportement inapproprié, inadapté, on peut se poser la question. Est-ce que parfois, moi, je renvoie cette image?
Et bien, ça arrive, tout à fait. Et c'est pour nous aussi tout un long chemin, un long travail. Et en tout cas, prendre un petit recul à ce moment-là, ça peut un peu remettre les choses en place. Le septième point, ça va être s'informer et se former continuellement. Et oui, il n'y a pas de secret, se tenir au courant des dernières recherches, des dernières approches éducatives respectueuses, participer à des formations, à des ateliers, rencontrer d'autres parents, échanger avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, ça va nous aider à rester dans la direction qu'on vise. Et ça, ben, c'est pas évident, mais on a besoin de clés, on a besoin de savoir pourquoi on fait les choses et ça va nous aider à orienter. Ensuite, dernier point, ça va être cultiver une relation qui est basée sur la confiance et le respect qui est mutuel. Vraiment développer une relation solide avec nos enfants en se construisant sur la confiance, c'est la finalité, moi, de ce que je recherche. J'ai envie de me dire, ok, si mon enfant, c'est pas juste un enfant, c'est une personne. Quelle relation j'ai avec aujourd'hui, quelle relation je veux avoir avec elle demain, et finalement ça se tisse aujourd'hui. Si je vois, je regarde mon enfant et je me dis, ok, je fais un saut dans le temps et j'imagine je parle avec lui dans 20 ans et j'imagine je parle avec lui dans 40 ans et j'imagine, soyons complètement fous, je parle avec lui dans 60 ans. Quelle conversation on peut avoir? Comment on va se situer l'un par rapport à l'autre? Quelle relation j'avais d'avoir à ce moment-là? Et moi, vraiment, ça me fait un déclic à l'intérieur de me dire « Oh, eh ben, en réalité, on a tendance beaucoup trop à se placer en tant qu'adulte comme la personne qui sait, la personne qui a l'expérience, la personne qui a les références. Mais ils ont déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous apprendre. Ils ont instinctivement une capacité d'écoute, une capacité d'empathie qui a beaucoup à nous apprendre. » Et ils sont vraiment partie prenante pour tisser une relation de confiance et de respect mutuel. Donc voilà, c'est savoir vraiment comment on peut respecter les individualités de tout le monde, honorer les limites personnelles et faire en sorte qu'on puisse être bien ensemble, parce que c'est ce que j'ai vraiment envie de construire dans la durée avec eux. Donc voilà, forcément tous ces objectifs-là, ben... des fois, ils semblent un peu irréalistes et irréalisables et ça peut être déstabilisant. Mais en réalité, on peut vraiment se rapprocher d'un modèle éducatif qui est celui que j'ai décrit ici. Peu importe le mot que vous y mettez, que ce soit une parentalité respectueuse ou bienveillante, en tout cas, on peut s'en rapprocher. Mais ça va demander... des efforts qui peuvent être sous forme de résolution, on peut dire un petit peu. Pour avancer sur ce long chemin, on va avoir besoin de bonnes stratégies et des outils qui sont appropriés pour atteindre ces objectifs qui sont très ambitieux. Donc il est vraiment essentiel de rester motivé et de persévérer malgré les obstacles qui peuvent se présenter sur le chemin. Et des obstacles, il va y en avoir. Je vous les liste un petit peu maintenant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'arrive pas à tenir nos résolutions. Déjà, le manque de stratégie. Ben oui, souvent, nous prenons des résolutions sans avoir un plan d'action clair pour les atteindre. Il est essentiel d'avoir une stratégie qui est bien définie et des outils appropriés pour réussir. On a besoin d'une vision globale pour s'offrir toutes les chances d'avancer sur la voie qu'on désire emprunter. Le deuxième frein, ce sont les objectifs qui sont irréalistes. Si nos résolutions sont trop ambitieuses ou irréalistes, il sera difficile de les tenir. Il est important de se fixer des objectifs réalistes et réalisables, de prendre en compte notre contexte, c'est-à-dire on ne peut pas avoir les mêmes exigences si on est épuisé en postnatal, par exemple. On doit choisir ses combats. Il y a des jours, on va rester focalisé, sur une chose en particulier, dont on veut vraiment que ça se passe bien. Et il y a des choses où on va devoir lâcher prise. De toute façon, on ne peut pas être sur tous les fronts tout le temps. Un autre frein que je tiens à soulever, c'est le manque de motivation. La motivation, elle est essentielle pour maintenir nos résolutions. Sans une motivation suffisante, il est facile de se décourager et d'abandonner. Donc, on se demande pourquoi on choisit la parentalité respectueuse. On s'offre une fenêtre sur les bienfaits à long terme
on s'abreuve de belles histoires en ce sens pour nous rebooster les jours de dawn, les jours où c'est un peu plus dur, les jours où on se dit « à quoi bon, pourquoi je me donne tant de mal ?» Je pense à une chose en particulier, les parents qui se lèvent la nuit, nuit après nuit, qui sont épuisés, fatigués et qui se disent « mais mince, en fait, à quoi bon ?» On a choisi de ne pas laisser notre enfant pleurer, mais on voit bien que l'enfant d'à côté, ses parents le laissent pleurer, ils l'ont laissé pleurer un peu, maintenant il dort toute la nuit, ils sont plus épanouis la journée, dans la balance, est-ce qu'on fait bien finalement ? Est-ce qu'on fait bien ? Donc là, se recentrer sur le pourquoi, ça aide à garder cette motivation intacte. Dire « ok, en fait, non, moi ce que j'ai vu comme info, ce qui me parle vraiment, c'est de me dire que finalement, c'est délétère pour mon enfant de pleurer seul. Donc, je l'accompagne en gardant ce cap. Et puis, je réadapte en fonction de comment je sens que ça vibre en moi. C'est important de se faire confiance, vraiment. Une autre petite chose, ça va être de savoir identifier les obstacles que vous avez sur votre chemin. Donc, c'est tout à fait naturel de rencontrer des difficultés. Quand on se donne des résolutions, il est important de rester persévérant et de trouver des solutions pour surmonter ces obstacles. Donc, ce qui est indiqué dans les livres, ce qu'on a vu en atelier, et ça nous semble tout beau, tout rose, et puis bam, la réalité nous saute aux yeux. Ça m'évoque vraiment la petite phrase « quand on peut vivre en théorie, ben, parce qu'en théorie ça se passe bien ». Et oui, en fait, identifier les obstacles pour redéfinir une approche qui est compatible avec nos ambitions parentales, ça doit se faire régulièrement. Et c'est vrai que y a plein de petites choses comme ça qu'on imagine d'une certaine manière. Et puis, finalement, ça évolue. Et je voulais vous parler d'une dernière petite chose, ce qui est la culpabilité. Parfois, la culpabilité, elle peut nous éloigner de nos résolutions. Si la culpabilité peut être un levier pour changer ce qui ne nous convient pas, elle a souvent un effet peu souhaitable de nous éloigner d'une ligne de conduite qui nous semblait saine et qu'on avait réfléchi en amont. Au lieu de nous motiver, elle peut donc nous faire abandonner nos objectifs. Il est important de ne pas laisser la culpabilité nous décourager et de se rappeler que le changement prend du temps. Ça demande vraiment de la persévérance. De toute façon, ça ne sert à rien. Je n'y arrive pas. Je suis nulle, je n'y arriverai jamais. Ça, c'est toutes les petites phrases qu'on peut se répéter, qui vont nous prendre énormément d'énergie, et c'est de l'énergie qu'on ne va pas mettre au service du parent qu'on veut être. C'est de l'énergie qu'on va voler alors qu'il pourrait être injecté dans cette recherche des obstacles, qui pourrait être injecté dans ce soin qu'on veut donner à notre relation. Donc on va vraiment se recentrer en faisant le focus sur les petits pas qu'on a fait dans la bonne direction. Oui, il y a des pas de travers, je crois vraiment n'avoir jamais rencontré deux parents le plus respectueux qui soit, ne jamais faire de pas de travers. Mais on fait le focus sur les petits pas dans la bonne direction. On pourrait évoquer aussi une autre fois un autre épisode pour voir quelles sont les options qui s'offrent à nous quand on a fait des pas de travers. Mais là, vraiment, on va rester à ne pas nourrir outre mesure la culpabilité qui pourrait complètement nous bloquer, nous figer, nous faire fuir. Mais faire en sorte que ça puisse être un moteur qui puisse nous pousser à faire mieux chaque jour. Et il faut savoir que ces résolutions que vous avez du mal à tenir en tant que parent qui veut accompagner son enfant de manière respectueuse, mais ça marche aussi pour les professionnels pour qui ce n'est pas toujours facile, notamment face à un groupe d'enfants, de surplus des enfants qui ne sont pas toujours accompagnés dans le respect à la maison, donc qui ont un comportement avec un modèle qui n'est pas toujours respectueux. Vous avez aussi beaucoup de contraintes environnementales qui vont un petit peu rendre les choses plus difficiles. Mais y réfléchir ensemble, ça va nous aider à avancer. Notamment, il faut bien garder à l'esprit que le modèle éducatif prédominant actuellement, il n'est pas en faveur d'une éducation respectueuse. Nous sommes influencés par des modèles éducatifs traditionnels qui privilégient la discipline autoritaire, la violence éducative ordinaire. Donc il peut être difficile de changer nos habitudes et d'adopter une approche qui soit respectueuse. Souvent, on a grandi comme ça, donc nos circuits neuronaux l'ont intégré. Et dès qu'on fatigue, dès qu'on n'est pas vigilant, on reprend mécaniquement des expressions, des gestes qui ont fait partie de notre enfance et qui ont vraiment façonné un petit peu la personne qu'on est. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. On les a entendus un peu tout le temps, un peu partout, depuis toujours. Ces petites phrases qu'on n'a pas envie de sortir. Et vraiment, voilà, ça prend du temps et ça demande une certaine remise en question de se positionner autrement que dans ce modèle éducatif qu'on a toujours vu. Il faut savoir que la pression sociale, elle peut jouer un rôle important dans notre façon d'éduquer nos enfants. Il peut être difficile de s'écarter des normes qu'on a toujours observées et de faire face aux jugements et aux critiques des autres. Par exemple, au supermarché, les étalages sont pensés pour que les enfants aient envie de consommer. Hein. C'est quand même le but des industriels et bien pensé. Hein. Maintenant, il ne faut pas que créer un produit, il faut en créer un produit qui est le plus attractif possible. Ils viennent dans les magasins, savoir à quelle hauteur ils vont le placer pour donner envie. Tout est pensé pour que l'enfant ait envie. Et donc, c'est énormément de stimulation. Et combien de personnes ont pu être témoins, que ce soit avec leur enfant ou avec d'autres, d'une crise dans un supermarché ? Avec des regards qui sont désapprobateurs. Et c'est vraiment difficile parce qu'à ce moment-là, c'est comme si le parent devait prouver qu'il était un bon parent, qu'il était un parent qui savait se faire respecter. Et ça peut emmener des comportements qu'on n'aurait pas souhaité parce que cette pression sociale, elle a du poids et qu'elle peut un petit peu nous déconnecter de la relation qu'on veut maintenir avec notre enfant. Elle peut nous déconnecter un petit peu de cette parentalité vers laquelle on se dirige. Parfois, gérer vraiment la gestion des émotions comme ça, ça demande de s'impliquer énormément. Et c'est pas toujours évident de réussir à faire le point sur nos émotions quand c'est comme ça. L'éducation respectueuse, elle implique vraiment d'accueillir nos propres émotions et de réussir à les exprimer de manière constructive. Et ça, c'est un cheminement qu'on fait parfois. On est au début, parfois ça prend du temps et puis le contexte change. Et puis alors qu'on avait l'impression qu'on était assez à l'aise avec ça, on se retrouve dans une situation en particulier qui va être déclencheur et qui va nous resituer encore en difficulté. Donc ça peut être un défi, car nous avons nos propres limites et des réactions émotionnelles qu'on a parfois bien du mal à accompagner nous-mêmes. On n'a pas appris à nommer précisément, on n'a pas appris à savoir quoi faire de ces émotions quand elles déboulent. Et ça évolue heureusement, mais c'est encore long et on ne peut faire qu'un pas après l'autre. Ce n'est pas possible de se dire que du jour au lendemain, on va être capable de faire ce qu'on demande à nos enfants souvent. On l'a vu tout à l'heure, une autre chose qui va nous mettre en difficulté pour garder nos résolutions bien vives, ça va être le manque de connaissances et de compétences. L'éducation respectueuse, elle nécessite des connaissances et des compétences qui sont spécifiques. Il est important de se former et de s'informer. Parfois, s'informer beaucoup, c'est une manière de se former d'ailleurs. Sur les différentes approches éducatives respectueuses, pour pouvoir les mettre en pratique et d'y revenir régulièrement. On doit s'entraîner encore longuement pour faire sienne nos nouvelles compétences en termes de communication. Chercher le respect et le consentement, ce n'est pas un acte qui est unique. Ce n'est pas une tâche à faire une fois pour toutes. Hop, c'est bon, aujourd'hui c'est fait, puis après on n'en parle plus. Non, pas du tout. C'est une tâche qu'on doit renouveler sans cesse. C'est une continuité, c'est une posture qu'on doit adopter jour après jour, situation après situation. Et au départ, des fois dans nos nouvelles compétences en communication, ça peut sembler maladroit. On ne se sent pas forcément très à l'aise, ça peut même sonner faux, mais ça vient, ça prend le temps, ça vient, on va petit à petit trouver ce qui nous semble le plus juste, le plus correct par rapport à nous en fait, on va s'approprier un petit peu cette nouvelle manière de communiquer. Et bien sûr, avec la fatigue ou tout autre événement, ça peut nous arriver de retrouver nos habitudes de communication celles qu'on voulait éviter, qui sont avec la culpabilisation ou ce genre de choses. Se remémorer les infos qui sont pertinentes pour nous soutenir dans nos choix parentaux, savoir comment le cerveau des enfants fonctionne, comprendre comment s'adapter, comment se convaincre en fait du bien fondé de nos souhaits de bienveillance, savoir pourquoi on le fait, et ça peut vraiment nous aider. C'était en lien là, avec ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la motivation. Et toujours et encore, il faut savoir faire preuve de patience et de persévérance. L'éducation respectueuse, ça demande vraiment de la patience et de la persévérance tout le temps. Il est parfois plus facile de céder à des comportements autoritaires ou de recourir à des méthodes coercitives, mais cela ne favorise pas une relation saine avec nos enfants. On a été emmené parfois, pour diverses raisons, à rechercher un truc qui marche maintenant. On a envie que ça fonctionne tout de suite. Même si ça ne correspond plus à nos valeurs, parce qu'on a un besoin particulier à ce moment et ça n'est pas compatible avec l'idéal qu'on s'était fixé. L'accompagnement respectueux, ça ne vise pas à obtenir d'un enfant un comportement qui est adapté tout de suite. Ça prend soin de l'estime, ça prend soin de la confiance en soi, ça met la relation au centre. Parce qu'en réalité, on aimerait parfois, puis il y a, je pense, tellement de livres qui abordent ce sujet-là, faire écouter votre enfant sans le taper. Attention, méthode super respectueuse, vous ne tapez pas votre enfant, mais il doit vous obéir. Ben, en réalité, je suis désolée de vous le dire, chercher l'obéissance, c'est pas forcément compatible avec le fait d'accompagner respectueusement. On peut chercher la coopération, on peut chercher que la relation elle soit suffisamment respectueuse et de confiance pour que l'enfant suive les règles que vous dictez. Mais si vous cherchez juste l'obéissance, en réalité, c'est pas tout à fait le bon axe. Comme je me sens en proie avec mes émotions, chahutée dans mes besoins, je me demande toujours si c'est OK. Quelle relation je veux nourrir avec mon enfant ? Et en fait, moi, personnellement, ça m'aide à vraiment me recentrer. Il est important de se rappeler que l'éducation respectueuse, c'est un processus qui est continu. C'est normal de faire des erreurs, de rencontrer des difficultés en cours de route. L'essentiel, c'est de rester engagé, d'apprendre de nos expériences et de continuer à grandir en tant que parent. Il y a des jours où c'est plus difficile. Et ces fameuses résolutions parentales, c'est pas parce que on les a pas toutes cochées, et c'est pas parce que parfois on a fait un pas de côté qu'on se doit de les abandonner. C'est important, je pense, pour se sentir aligné, de persévérer. Voilà, on va arriver au bout de cet épisode de podcast. J'espère que ces quelques mots vous auront fait du bien. En tout cas, vous auront fait réfléchir, ou si vous avez envie d'échanger à ce sujet, surtout n'hésitez pas, vous pouvez le faire dans les notes du podcast. Vous pouvez aussi partager vos impressions, vos avis sur la page Instagram de Maman Dalune ou sur la page Facebook de Maman Dalune. Je vous encourage à partager autour de vous, à faire vivre un petit peu ce podcast. Je suis convaincue qu'ensemble, nous pouvons créer un environnement qui est bienveillant et respectueux pour nos enfants et que ça peut changer le monde. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous.